Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine des 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
Ah, j'ai failli être en retard. J'avais égaré mon téléphone.
Mais vous êtes là et tout va bien. C'est la magie de cette émission. C'est déjà...
C'est le miracle de cette émission.
C'est déjà le deuxième, la deuxième heure de la semaine. Et qui dit deuxième heure, qui dit mardi, dit Laurent Lacroix.
Oui, et donc, d'une seule et même voix, nous disons...
Bonsoir Laurent Lacroix.
Bonsoir Hugues, bonsoir Rudy.
Bonsoir mon tout petit. Comment ça va ?
Bien, bien, je suis...
Vous savez, c'est effrayant quand on perd son téléphone. Parce qu'on ne sait pas dire...
Mais aujourd'hui,
appelle-moi, tu me ressonnes, comme ça je te ressonne, parce que s'il sonne, je pourrais te ressonner. Mais non, puisqu'on n'a pas son téléphone.
Aujourd'hui, c'est devenu un ordinateur portable, donc c'est
moi,
ça.
Moi, c'est l'extension de mon bras.
C'est la catastrophe.
C'est triste.
Ah là 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 là.
C'est triste.
Combien nous sommes liés à la technologie. Ouais. Mais heureusement, Laurent Lacroix veille et il fait en sorte que la technologie nous assiste ce soir.
C'est voilà. Vrai. Hein? C'est vrai. Plutôt voilà. Qu'elle ne nous domine, voilà. Elle nous assiste.
Bon, est-ce que cette technologie est à même de diffuser un truc avec des notes et des instruments, enfin de la musique?
Je
quoi.
Dis oui, je m'en remets à Laurent Caro Lacroix. Eux aussi sont très technologiques.
Oui.
Ils l'ont toujours été.
Oui.
Et malgré un âge qui commence à peser, ils continuent à avoir une actualité. Ils produisent à tour de bras et ils repartent en tournée. Leur nouvel album s'appelle Nonetheless. Il sortira le 26 avril. Autrement dit, c'est imminent. C'est le nouvel album des Pet Shop Boys.
Mais enfin.
Incroyable.
Mais enfin.
Et donc de cet album, on va écouter un nouvel extrait, à mon avis, je pense le dernier avant la sortie du grand disque, puisque là on est vraiment aux portes de cette sortie. Et au début, tendez bien l'oreille, au début de cette chanson, je pense que, sans doute malgré eux, à l'insu de leur plein gré, ils rendent quelque part un hommage à Hooverphonic.
Ah oui.
On les écoute ?
Ah oui.
C'est le nouveau Pet Shop Boys.
C'est un vieux morceau inédit ?
Non.
Pour un best-of ?
Non.
C'est pas un truc qu'ils ont trouvé qui date de 97,
c'est
non ?
Tout nouveau.
Ah, c'est tout nouveau.
Tout nouveau.
C'est tout nouveau. Enfin, ça
s'appelle Dancing Star, vous l'avez entendu au début. Il rend hommage à Amalfi.
Ah oui, oui,
donc,
oui.
Hooverphonic n'est jamais très très loin.
N'est jamais très loin.
Non, jamais très loin.
Et peut-être donc, qu'ils vont engager Guy comme choriste.
Peut-être.
Oui.
Peut-être. Donc c'est c'est un nouveau.
Oui, ça ne va pas désarçonner les fans.
Non, les fans de base ne vont pas être tout à coup... ils font pas leur tchao pantin.
Non,
mais ils l'ont
non,
déjà fait.
Oui. Et est-ce que ils aiment beaucoup l'argent ou ils ne savent faire que ça ?
Je crois les deux.
À ce stade-ci.
Je pense les deux.
Oui, parce que ce stade-ci, on est arrivé au stade de la beauté de l'inutile. Enfin, je veux dire, hein, c'est.
Attendez. Ouais. Neil Tennant, on l'imagine, il va voir des expositions, il dîne en ville, il est sûrement membre d'un club très cher et très privé.
Le Savoy.
Oui, quelque chose comme ça. Donc, il a une vie sociale. Mais Chris Lowe, si on lui débranche les Pet Shop Boys. À part ouvrir un magasin de lunettes et de casquettes.
De casquettes, j'allais dire.
Hein oui. Chris.
Le musée de la casquette.
Oui. Ou un truc, ou un pitadou room, je sais pas.
On connaît peu sa vie. Hein.
Oui. Ah oui, je pense qu'il vaut mieux.
Oui.
Hein. Oui, sinon, ça serait en première page du Sun. Je pourrais vous en raconter, mais hors antenne.
D'accord. Bon.
Non, à une autre époque, j'aurais raconté sur antenne, mais en 2024, c'est hors antenne.
Ah bon, bon.
Bah, je tiens pas à finir
non.
En geôle.
Non, c'est évident.
Pour avoir calomnié, dénoncé.
Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Voilà. Je vous avais dit cette semaine pas mal, j'avais en commençant l'émission de lundi, pas mal de films français cette semaine et quelques bonnes surprises. Alors il y a un film, un premier long métrage d'un certain Florent Bernard. Et Florent Bernard, il a participé à pas mal de scénarios. Ça fait partie de cette jeune génération qui a commencé en écrivant des capsules, des sketchs, des formats courts, puis des épisodes de séries, et voilà, et qui progressivement arrive dans le domaine du cinéma et du long métrage. Et ça se sent parce que l'écriture de ce film qui s'intitule Nous, les Leroy, bénéficie d'un sens de l'ellipse qui vient visiblement de l'école du cours et de la télévision. Ça parle de quoi, Nous les Leroy? Eh bien, ça parle d'une famille, française, classe moyenne, petite ville de France. Et elle, Sandrine, incarnée par Charlotte Gainsbourg, est employée dans une agence de voyage. Et lui, Christophe, travaille comme dans la petite ville, le seul vrai loueur de voitures sérieux et fiable. Alors, Sandrine conseille des voyages exotiques, alors que elle
n'est jamais allée nulle part.
Depuis des années, la plus grande aventure, c'est de nouveau aller au Futuroscope de Poitiers avec les enfants.
Hugues, pas crédible. Hein.
Pourquoi?
Ah, parce que quand vous allez en agence, la plupart du temps, il y a toujours l'un ou l'autre employé de l'agence qui est allé à l'une ou l'autre des destinations oui. qui vous intéressent et qui peut vous... Ah oui, ça fait partie du job.
En tout cas, pas donc, Sandrine.
Ouais, donc, il a peut-être le sens du quoi, de la concision, de l'ellipse, mais il n'a pas le sens du fact-checking.
Ouais, hein, voilà. Et donc, toujours est-il que Sandrine, en gros, elle s'ennuie. Elle s'ennuie les enfants sont en train de grandir et de quitter progressivement le nid familial. Et elle se rend compte que sa vie est devenue grise et donc demande le divorce. Et lui n'a rien vu venir. Et il échafaude à passer la première dispute, le moment d'hébétude. Il dit « Laisse-moi une chance. Donne-moi 3 jours. Je vais nous organiser un voyage absolument formidable, à 4, en famille. » Et c'est quoi ce voyage de 3 jours? C'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage dans le passé, d'endroits qui ont été, de restaurants ou de lieux qui ont été magiques et qui ont
symbolique
été symboliques pour leur histoire d'amour.
Je vais être un peu taquin aujourd'hui.
Oui. Mais pas sur un film que j'aime bien,
oui,
si
mais
vous voulez.
Oui, mais je ne sais pas.
Sur un mauvais, oui, mais sur un bon.
C'est
dommage de me casser mon cou, mais oui,
mais
je vous ai dit que c'était une bonne
coup,
surprise.
C'est le scénariste, s'il a deux mains gauches.
Oui. Très bon scénariste.
Et en quoi ça va l'aider de divorcer, puisque de toute façon, elle ne fait rien de sa vie. Enfin, je dis, ça va déclencher quoi?
Elle imagine bien, justement.
C'est comme des gens qui dépriment, ils disent, je vais déménager. Ils vont emmener leur dépression avec eux.
Non, mais.
Tout le monde sait ça.
L'idée est effectivement de prendre du champ, ouais. évidemment. Et de
mais ça, c'est toujours un peu facile de dire « Oui, ma vie est grise, c'est la faute des autres, donc je vais divorcer. »
Mais ce qui est intéressant oui. dans le film, c'est la manière de montrer
qu'est-ce
l'usure.
Qu'est-ce qui vous a intéressé
tout,
dans ce film
tout. Tout. C'est l'histoire de ce couple est résumée en 5 minutes à travers des messages de répondeurs. Au début, c'est super enflammé. On les voit pas, adolescents, c'est intelligent, mais on les devine. Les premiers émois, etc. Et puis, les messages, ça devient « N'oublie pas d'acheter des croquettes pour le chien ». La manière dont...
Ça vous plaît bien.
Ouais, la manière dont le... Dans la manière
ouais,
dont
je,
le
oui,
quotidien,
je commence à comprendre.
La manière dont le quotidien est en train d'envahir et de ternir la relation est très, très bien décrite en 5 minutes. Et puis, d'abord, les personnages d'adolescents sont pas du tout caricaturaux parce que cette idée de la séparation, oui, c'est votre vie, vous faites un peu ce que vous voulez. Enfin, ils sont déjà dans autre chose, ils sont dans leur propre vie. Et il y a ces deux personnages. Le personnage de Sandrine, c'est un bon rôle pour Charlotte Gainsbourg parce que Dieu sait qu'elle est souvent mal castée dans des rôles qui ne lui conviennent pas et où elle est mal à l'aise, elle cherche ses marques. Ici, franchement, on se rappelle d'une bonne comédie avec Chabat qui était prête-moi ta main. Voilà, ici on est à peu près dans la même idée de bien caster Gainsbourg. Et José Garcia, dans ce rôle de type de forcené de forcené du souvenir, de type, allez, ça va aller. Il est absolument épatant parce que c'est juste un rôle tragicomique. On est en même temps solidaire du gars et en même temps, on dit, ça va pas aller, c'est un mauvais plan. Il y a une espèce de dimension pitoyable qu'il joue à merveille. Il y a une scène d'anthologie, de karaoké avec une chanson de Gérard Lenormand. Moi, je la mets déjà dans mes scènes.
L'autre Gérard.
Voilà. Parce qu'en fait, ce pèlerinage va évidemment réserver des surprises et on l'a compris, pas forcément des bonnes. Mais on n'est pas du tout
dans la... Je peux vous poser une question vous m'auriez posée dans d'autres circonstances. Oui. Dites, José Garcia, il est toujours à temps plein, lui, ou...
Oui, mais il a fait beaucoup plus de théâtre. Ah. Oui, donc il a eu envie d'un peu élargir le champ. Et donc, effectivement, il a moins tourné, mais là, il revient. Et justement, l'ami José, pour lequel j'ai, comme beaucoup d'entre nous, une grande sympathie, parce que même s'il a fait des très mauvaises choses, il en a fait aussi des très bonnes. Mais moi, comme point de départ de la discussion, c'est les scénarios de comédie, en plus avec un premier long métrage, on ne sait pas ce que le réalisateur va demander. C'est quand même toujours un peu difficile. Est-ce que de percevoir le potentiel d'un film comme ça, et est-ce que, mon cher José, est-ce qu'il a senti ce que ça pouvait être à l'écran ? On l'écoute.
J'ai pas du tout senti ce que ça pouvait être. J'ai trouvé surtout que, et c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est la modernité de ce qui était écrit. La manière de... Parce qu'en fait, le sujet en lui-même, il peut être traité de 50 000 façons différentes, mais là, il y avait une vraie modernité, il y avait une vraie énergie. Et moi, je fais très attention à ça. C'est-à-dire que j'aime pas les choses poussives, poussiéreuses, ennuyeuses ou anciennes dans la manière de les traiter. Voilà. Quand ça a été déjà vu et revu, je trouve ça un peu dommage de se donner autant de mal quand on sait le travail que ça demande de faire un film. Et là, il y avait une vraie modernité. Et quand j'ai vu le film, j'étais content.
Vous voyez comment ce personnage de Christophe, il est un peu hors sol avec son projet. Comment vous le sentez ?
Ah, il est comme pas mal de gens que je connais ou que j'ai connus. C'est des gens qui sont souvent dans la nostalgie. J'en connais beaucoup qui voudraient toujours en fait revenir à des moments de leur passé dans lesquels ils étaient solaire. Et moi, je trouve qu'en fait, essayer de revenir à des moments où on était solaire, en fait, on peut être solaire tout le temps. L'herbe est toujours verte là où vous arrosez, de toute façon. Donc, le problème, c'est qu'ils ont oublié d'arroser. Et en fait, ce personnage-là, il est formidable pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un moment de gloire quand il était plus jeune. Il était drôle et ils étaient avec sa femme en pleine complicité, en pleine énergie. Et puis, ils ont oublié leur fantaisie. Que ce sont des gens qui se sont oubliés dans leur vie, qui se sont oubliés dans le fait d'avoir une famille. Ils ont tout installé dans leur famille. Et à partir du moment où les enfants s'en vont, qu'est-ce qui reste ?
Sur un plan personnel, dans un chemin de vie, quand on a traversé un divorce, est-ce que c'est difficile d'en rejouer un autre à l'écran ?
Non, justement. Justement, parce que de toute façon, un divorce, c'est toujours un échec. Et c'est très intéressant parce que ça vous remet... vous travaillez aussi sur vous-même. Donc ça fait ressortir beaucoup de choses. Évidemment, moi, ce personnage-là, il n'a rien à voir avec moi parce que moi, je suis vraiment dans le présent et surtout dans le futur. Je ne suis pas du tout nostalgique. Moi, si vous voulez, je crée au jour le jour. Mais comme je connais plusieurs personnes comme ça qui ont ce sens dans l'instagé, et ça m'a toujours touché de voir qu'ils étaient toujours en train de me parler de certains moments bien précis. Et j'en dis, mais pourquoi ne pas le recréer ? C'est quoi l'histoire ? Et en fait, ils n'y arrivent pas. Et je m'intéressais à ça, et surtout de commencer un personnage d'ailleurs qui dit à sa femme « Écoute, donne-moi 3 jours, ce qui est formidable, c'est de croire qu'en 3 jours, le mec va pouvoir effacer quand même des années, parce que sa femme, on sait bien qu'il l'aime, et qu'elle l'aime aussi, et de dire « En 3 jours, je vais te montrer à quel point notre vie a été géniale, a été formidable et tout ça. » Et le type part exactement là où il ne faut pas aller. Alors ça, moi, c'est des personnages que j'aime beaucoup.
Ouais. Ce qui est extrêmement bien vu et pertinent, c'est l'idée qu'il y a un couple qui devient une famille, et puis évidemment les enfants grandissent, et il y a ce moment charnière où le couple redevient couple, et s'il y a encore quelque chose à
dire. Qui suis-je à ce moment-là ? Comment je me suis oublié dans cette famille ? Tout le monde s'oublie dans sa famille, puisqu'en fait on est concentré sur les enfants, sur comment ils vont vivre, sur ce qu'il faut faire, les parents aussi, faire attention un peu à tout le monde, et à un moment on se retrouve, on est 2 étrangers, et il faut réinventer et voir si en fait on a les mêmes envies. C'est super intéressant.
Je pense que de temps en temps, on regarde quand même dans le rétroviseur et on se dit, ça, je l'ai très bien réussi, ou ça, nom d'une pipe, oui. Je l'ai raté, et c'est dommage que je l'ai raté. Quel est votre plus grand motif de fierté, où vous dites, là, j'ai fait un bon petit boulot, ou de dire, ah, là, je suis passé à côté?
Écoutez, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait le point assez régulièrement. C'est très important. Parce que maintenant, je me dis, comment une œuvre que j'ai faite, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a évolué. Moi-même, je vois des films qui ont très mal vieilli et d'autres qui ont gardé une saveur extraordinaire, qui ont gardé quand même une grâce tout au long de toutes ces années. Et puis soi-même, comment est-ce qu'on travaille sur soi-même? Comment est-ce qu'on a évolué? Moi, je ne me présente pas jamais par rapport à mon âge, parce que moi, ma tête, elle a 15 ans. Donc je ne veux qu'une seule chose, c'est de savoir comment ça va continuer à avancer et comment finir avec panache. Parce qu'en fait, commencer, c'est assez simple finalement. Mais savoir comment on va finir. Vous vous rendez bien compte que dernièrement, il y a quand même des histoires qui sont arrivées où personne n'aurait cru que certains d'entre nous, ou même d'autres personnes, auraient fini un peu de... Enfin, sans être fini, mais ce que je veux dire, de se retrouver avec ce... Et donc, voilà, moi je suis aussi dans cette espèce de temps suspendu où je me dis, bon, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut vous arriver, on ne sait pas ce qui peut vous fracasser, on ne sait pas comment la vie peut vous malmener. L'important, c'est de savoir si vous allez finir avec panache ou pas, quand même.
Voilà, commencer, c'est facile. Continuer et finir avec panache. Espérons pour lui qu'il n'en soit pas déjà au stade de la fin. Mais voilà, et se poser les bonnes questions. C'est donc José Garcia, enthousiaste à propos de nous, les Le Roi. Et je partage son enthousiasme, mon cher Rudy, pour ce film que je trouve très juste.
On l'a compris, et depuis que j'ai fait des remarques sur la pertinence du scénario.
De l'agence de voyage.
Hugues me fait la tête.
Jamais, je ne fais jamais la tête.
Vous voyez, par exemple, si elle déprimait parce que plus personne ne va en agence et tout le monde commande des voyages sur Internet, ça marche. Mais dire qu'elle n'a jamais voyagé alors qu'elle travaille en agence...
Ça, c'est un autre film qu'on va peut-être leur suggérer, la désaffection des agences de voyage.
mais on y revient.
Ah oui.
Aux agences.
Oui.
Ah oui,
oui. Un bon conseil.
Un bon contact personnel. Avec des gens qui ont vu les endroits qu'ils conseillent.
Oui, et parce que trop d'expériences malheureuses. Trop d'expériences malheureuses. Donc, je donnerais volontiers deux... on donnait des permis de séjour, vu le premier film qu'on a abordé. Deux permis de séjour à ce Nul et le Roi, qui est vraiment... qui marque un très très bon retour dans la comédie pour Charlotte Gainsbourg. Parce que souvenons-nous que la pauvre, elle avait quand même...
La pauvre de...
Non,
est-ce qu'on peut rembobiner?
Non, mais pourquoi la pauvre?
Elle était comme... de la maison Gainsbourg.
Je sais, cher et vilain,
en plus elle a un intéressement sur le café en face qui s'appelle le Gainsbar.
Mais je sais quand même qu'elle devait partager la vedette de la dernière comédie de Danny Boone, vous vous souvenez? Ce film qui a été une catastrophe industrielle. Ah, vous avez oublié déjà, comme beaucoup de spectateurs. Et donc là, heureusement, elle a trouvé une comédie nettement plus réussie que ce Nul et le Roi de Florent Bernard.
Et ça sort ce mercredi. Demain.
Ouais, absolument.
Demain, c'est mercredi.
Absolument.
Ouais.
Hey. Le monde est bien fait.
Ouais. Bon, c'est pas tout ça. Ce week-end est sorti un album hommage à Michel Polnareff.
Ah oui, mais il n'est pas mort.
Non, non, il a 80 ans cette année.
Oui.
Voilà. Vous vous souvenez, on avait diffusé il y a quelques semaines Malik Djoudi qui chantait Lettre à France.
Oui, c'était atroce.
C'était un peu son Douce France.
C'était abominable.
C'était un peu, à propos de carte de séjour, c'était un peu, au bout de permis de séjour, c'était un peu son... son Douce France à lui, mais version Polnareff. En fait, c'était pas un one-shot, ça fait partie de tout un album où, je peux déjà vous dire, ils ne se sont pas pressés pour venir reprendre du Polnareff sur cet album. Était une fois Polnareff.
Parce qu'il est tellement pointilleux, emmerdant, non.
J'en sais rien, mais je pense que...
Parce qu'il y avait eu quand même toute une émission de France 2 où lui était dans la salle et il y avait plein qui... Il y avait Catherine Ringer qui était venue refaire... Donc ça avait déjà été fait quelque part.
Il y a eu tout le problème avec Pascal Obispo, mais ceci dit, qui n'a pas de problème avec Pascal Obispo?
Avec Pascal
Moi-même, mais Je ne peux pas vous en parler sur antenne, ça sera l'objet d'une autre émission. Je ne tiens pas à me retrouver au cachot avant, avant 20h. Donc, sur l'album, on retrouve Malik Judy, Lily Wood and the Prick, Voyou, Catherine Ringer, que vous venez.
Ah, elle y est. Qu'est-ce qu'elle prend? Qu'est-ce
qu'elle Love fait... Me, Please Love Me.
Ah oui, c'est ce qu'elle avait fait.
Oui,
dans
l'émission. Sans doute dans un. Voilà. On a aussi Laurent Voulzy, Le Bal des Lazes. Oui, ça, ça tient la route. Kurt Smith de Tears for Fears.
Ah oui.
Tout seul. Hein.
Oui, ah oui.
Yael Naïm. Enfin, ah oui. Que du lourd. Et on a Pomme. Alors, Pomme, qui continue sa grande dérive sur l'océan de l'inutilité depuis, depuis longtemps. Hein. Ça fait un moment que. Bon,
elle a fait son album Champignon, quoi.
Il y avait l'album Champignon. Je vérifiais là tout à l'heure en écoutant José Garcia. Son album Les Failles, c'est 2019. Donc, j'ai l'impression que ça remonte à il y a 20 ans. Tellement la distance est énorme entre ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle est déjà un peu installée dans une sorte de caricature d'elle-même où elle fait ce qu'on attend d'elle. Le côté un peu, je suis un peu à côté, un peu en oblique, mais de toute façon, je pourrais chanter le bottin, donc vous pouvez toujours revenir. Voilà. Donc, elle y va de sa reprise de Michel Polnareff. Donc, elle a fait son devoir, et Pomme s'est attaquée à la chanson « Qui a tué grand-maman ?»
Moi, je préfère ça que Lettre à France de oui. L'autre comique.
Oui, oui, vous me confiez, aux antennes, moi, j'aime bien Pomme.
Ah, en tout cas, donc, moi, j'aime bien. C'est... En matière de reprise, pendant le Covid, elle avait fait une reprise de Désenchanté de Mylène Farmer.
Et ça, donnait... vous avait aidé à passer à travers le Covid.
Ah, mais elle avait donné une autre, toute autre vision sur cette chanson en l'épurant. Voilà, donc il y a des reprises. Moi, mais en attendant, là où on... Là où on se rejoint, c'est sur l'utilité de cet album. Hein. Ça, c'est... Ces albums hommages, c'est
quand
assez...
même tout ramé sur l'océan de l'inutilité pour rejoindre l'île de la vacuité. tout ça pour ça.
Voilà. Ouais. Alors...
Mais ceci dit, je m'adresse à Universal Music, donc vous pouvez accoler l'autocollant sur le prochain Pomme. Moi, j'aime bien Hugues Dallier. Puisque vous avez ça sur les affiches de cinéma, pourquoi pas sur les disques? Moi, je dis.
Oui, les affiches de cinéma.
Oui. Moi, j'aime
les
bien.
Quotes, les quotes.
Mais moi, j'aime bien aussi, c'est pour ça que je suis énervé. Parce qu'elle pourrait faire beaucoup mieux que ça. C'est quoi? Là.
Elle perd son temps.
Oui, exactement.
Alors, autre film. On va aller vers le Japon, mon cher Rudy.
Ah.
Avec Evil Doesn't Exist. Le mal n'existe pas. Et cette fois-ci, c'est un scénario original de Ryusuke Hamaguchi, à qui on devait le film Drive My Car, que vous avez peut-être vu.
Non, j'ai passé mon tour.
Voilà. Moi, j'étais pas client, mais Drive My Car était inspiré des nouvelles de Haruki, d'une nouvelle de Haruki Murakami, et avait obtenu une flopée de prix, dont l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2022. Donc, c'est peu dire que beaucoup de ses fans attendaient le nouveau film de Ryusuke Hamaguchi, qui s'intitule donc Le mal n'existe pas. Et on est dans le Japon contemporain, et on est dans un petit village, dans les environs assez... le grand hinterland de Tokyo. On est à quelques heures de Tokyo. Et là, on découvre un homme solitaire, Takumi, qui vit une existence simple et paisible dans un petit village, dans la montagne, et avec sa fille, qui a une dizaine d'années. Et une des ressources principales du village, c'est important, c'est l'eau de source qui coule des montagnes et qui, d'ailleurs, Takumi, on voit clairement qu'il remplit des bidons qui lui servent pour au lieu de l'eau courante dans sa maison qui est nichée donc dans cette en pleine nature. Et à ce moment-là arrive une délégation pour un projet de glamping. Vous connaissez le glamping?
Oui, le glamping, c'est-à-dire c'est aller en camping mais vouloir tout le confort de
notre glamour camping
de l'hôtel 4 étoiles.
Le glam camping.
Le camping de Tomorrowland, C'est du glamping.
Du glamping, oui. Voilà, avec des yourtes bien installées et le reste, oui.
Et le reste, et le reste. Il y a des salles de bain, il y a une piscine, voilà. Il y a un sauna, voilà, un mam.
Donc c'est une sorte de souvenir de camping.
Ça n'a plus rien à camping, voilà, alors qu'on peut juste le... C'est juste démontable.
Voilà, voilà. Mais c'est en pleine nature. Voilà. Et il y a un projet de glamping avec évidemment les dommages collatéraux, l'installation d'une gigantesque fosse septique et il y a une réunion d'informations.
Le glamping ou pas,
oui, il faut quand même caca.
Oui. Oui, c'est un peu l'émission aujourd'hui où voilà, faut que ça se passe de temps en temps.
Mais écoutez, c'est une côte.
Oui, 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 oui. Bon.
Donc, toujours est-il qu'il y a ce qu'on appelle une réunion d'information. Vous voyez, les réunions d'information pour le projet.
Ouais, le comité de quartier. Ouais,
avec les villageois. Et c'est une scène assez formidable dans le film parce qu'on voit en fait que les gens responsables de la communication de projet ne sont que responsables de la communication du projet, c'est-à-dire que c'est une agence de com et ils vendent ça comme la veille ils auraient vendu une exposition immersive de Vincent Van Gogh et comme la veille ils auraient vendu un salon de loto. En fait, c'est une agence, au départ c'est une agence de qui défend des talents, des artistes, donc une agence d'impresario, et ils ont cette commande-là d'aller essayer de dorer la pilule et de faire passer la pilule aux villageois. Par... Et évidemment, les villageois, qui ne sont quand même pas les derniers des crétins, disent « Attendez, votre... »
Villageois, mais pas con, ça c'est fosse... l'expression
voilà,
bien connue.
Votre fosse septique, elle va polluer la rivière, alors que la rivière, elle sert à tous les habitants en eau potable, etc. Donc, oui,
on vient de perdre 5 personnes. Je voulais dire à ceux qui, malheureusement, sont en train de... Ne vous éloignez pas. Agence d'impresario, c'est agence de management. Voilà. Alors les jeunes reviennent. Oui,
de management,
oui, oui.
Voilà, voilà. Et donc, toujours est-il que. Mais c'est un joli mot après ça.
Oui.
Hein,
oui,
oh,
oui.
On a le droit d'aimer. On vient d'écouter quelqu'un qui fait de la chanson française d'autrefois. On peut encore parler d'impresario. Et donc, ça donne une scène de face à face entre ces vendeurs de soupe et des villageois dont la vie et l'écologie est absolument, pour qui l'écologie est absolument essentielle, et c'est pas une pause, c'est vraiment leur manière de vivre dans ce petit village. Mais l'intelligence et l'originalité de Hamaguchi, c'est qu'il ne fait pas une sorte de grand film de démonstration politico-écologique. On a parlé hier de la promesse verte, on est absolument dans une démarche inverse. Ici, ce qu'il veut montrer, c'est malgré la bonne volonté de cette équipe de présentation qui veut écouter, mais, c'est qu'en fait, on est dans deux manières d'habiter le monde et deux manières d'être au monde qui sont totalement irréconciliables. Et même si ces gens ont éventuellement envie de se parler et d'essayer de trouver un terrain d'entente, ils ne parlent pas de la même chose parce que il y a effectivement ces villageois qui sont en totale communion avec la nature et le milieu, ils se sont installés, et puis il y a rien à faire, des citadins qui sont avec absolument d'autres impératifs, un autre rythme de vie. Et c'est ce que dit en filigrane de manière assez intelligente et poétique ce cinéaste, parce que il va prendre la tangente, en fait. Il va laisser dos à dos, quelque part, les deux équipes pour parler tout autant de la petite fille qui a sa vie propre dans ce village. Et donc, il y a une dimension, on peut dire, un peu ésotérique, un peu mystérieuse, comme souvent dans certains films japonais contemporains où on pose une situation et on ne donne pas toutes les clés et aux spectateurs de faire le reste. On n'est pas devant une fin ouverte et frustrante, on est devant un film et qui est une sorte de chronique impressionniste et descriptive de force en présence et une fois encore de deux manières d'habiter le monde, de deux manières d'être au monde et de quelque part de consommer le monde aujourd'hui. Voilà, ça s'intitule Evil Doesn't Exist, d'où le titre à mon avis assez ironique, Le mal n'existe pas, parce que tout le monde a ses raisons d'agir comme il agit dans cette histoire, dans ce conflit. Et donc c'est un scénario original, c'est pas l'adaptation d'un roman cette fois-ci. Et là aussi, je donne volontiers 2 permis de séjour pour ce film japonais, mon cher Ruth.
Eh ben dites donc.
Voilà.
Oh,
c'est générosité.
Bon, je serai généreux. Je ne sais pas ce que j'offre, mais le premier qui arrive à me donner la réponse de qui est... Enfin, qui est
de qui
le...
a tué grand-maman.
Ça, on le sait maintenant. On a la coupable. Je vais vous parler d'une Nepo Baby de niche.
Oula.
De qui est-elle la fille? Fabiana Palladino.
Je connais ce nom de Palladino.
Pino Palladino.
Pino Palladino.
Mais un des grands bassistes des années 80, 90. Il a joué avec tout le monde. C'était, en France, on avait Yannick Top.
Oui, chez Serge Paratonnerre.
Serge Paratonnerre. Mais Paratonnerre, il était plutôt claviériste, lui, non?
Oui, mais ils étaient souvent associés.
Oui, mais je parle de bassiste.
C'était Top et Paratonnerre.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Peu comme Gennaro Oliveri et Guido Pancaldi.
Chez nous, on a Nicolas Fiesman, mais qui est beaucoup plus
contemporain. Un peu comme Édouard Caillot et Sim, en quelque sorte. C'est des duos médiatiques.
Et voilà. En Angleterre, on avait Pino Palladino, qui a joué à peu près avec tout le monde. Uh-huh. Spécialiste de la fretless, de la basse fretless. On l'entendait chez Paul Young.
Ah oui.
Et donc, il a une fille qui s'appelle Fabiana Palladino. Elle n'en est pas à son premier enregistrement. L'album qui est sorti ces jours-ci recueille absolument des suffrages partout, y compris des artistes comme Lorde qui viennent spontanément, de manière volontariste, soutenir cet album en disant « il faut écouter Fabiana Palladino, c'est absolument formidable ». Donc elle ne chante pas en italien, je pense qu'elle est anglophonisée depuis l'enfance, vu le travail de son père qui a beaucoup travaillé avec des musiciens anglais et américains, même s'il est d'origine italienne. Et donc son album s'appelle « Closer » et en voici la plage titulaire. Fabiana Palladino.
Fabiana.
Ouais.
Ouais. Autre film que j'aimerais évoquer, mon cher Rudy, là on revient...
Eh bien, nous vous en prions.
Là, on revient en Belgique.
Est-ce qu'on vous a mis des baïonnettes dans le dos pour vous...
Pour que j'en
donner
parle
l'envie de l'évoquer?
Non.
Avez vraiment envie de l'évoquer?
Non, je vais plutôt avoir des baïonnettes dans le ventre après en avoir parlé, c'est différent. Non. Ah si. Pour une mort lente et douloureuse du critique de cinéma. Ça s'appelle « Il pleut dans ma maison » et vous allez voir plein d'affiches partout et ça a eu le grand prix au dernier FIF à Namur, le Festival du film francophone. Et la réalisatrice namuroise Paloma Sermon-Dai avait déjà remporté le grand prix du FIF avec un long métrage documentaire, celui-là, qui s'appelait « Petit samedi » et qui était assez touchant. C'était l'histoire d'un fils accro à la drogue et sa mère qui essayait tant bien que mal de l'aider à s'en sortir. C'était déjà un peu déprimant, mais il y avait une dimension réaliste et touchante dans ce long métrage.
Précisez votre pensée déjà un peu.
Oui, parce que
qu'on va poursuivre.
On poursuit dans une veine sombre, mais cette fois-ci, ça se présente comme une fiction. Il pleut dans ma maison, c'est l'histoire de Purdy et Mackenzie. Ce sont leurs vrais prénoms. Purdy va avoir 18 ans, Mackenzie en a 15. Ils sont joués par Purdy et Mackenzie Lombay, donc qui sont véritablement frères et sœurs dans la vie réelle et qui ne jouent pas leur propre rôle, mais qui jouent une fiction qui aurait pu quelque part leur arriver et donc imaginée par cette réalisatrice. C'est l'été, c'est la canicule et l'idée de montrer...
Ils sont comédiens ou c'est
attrapé
à l'arrache?
La fille avait déjà tourné dans un court-métrage de cette réalisatrice. Donc il y avait déjà...
Donc on reste un peu...
Voilà.
Entre soi, quoi.
Et l'idée de filmer un été caniculaire dans un petit village près des lacs de l'Oder. Et c'est l'idée de... Je vois bien l'idée du film, c'est... saisir ce frère et cette sœur à un moment charnière, à un moment où ils vont devoir choisir ce qu'ils vont éventuellement pouvoir faire de leur vie, d'autant que ils n'ont pas beaucoup d'atouts, ils vivent dans une petite maison décrépite et la mère joue aux abonnés absents. La mère, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais elle est très très peu là, visiblement assez portée sur la bouteille et totalement démissionnaire. Et donc le père est mort depuis belle lurette et ces deux adolescents sont livrés à eux-mêmes. Et on voit donc la fille aînée, Purdy, qui va avoir 18 ans et qui rêve d'émancipation, qui trouve un petit boulot de de femme de ménage, un petit job d'étudiant, quoi, un petit job d'été. Et à partir de ce moment-là, avec son pécule, elle espère prendre un appartement. Mais en même temps, quelque part, elle sert toujours un peu de mère de substitution pour son petit frère, parce que cette mère n'est jamais là. Et elle a une charge... Elle a la conscience pas tranquille si elle part, et donc elle veut continuer à veiller sur son petit frère qui, en gros, il a 15 ans, il est en décrochage scolaire, et lui, il ne fait que des bêtises, quoi. Il est avec un copain, il vole des vélos.
Ah oui, pas comme Sabine Paturel.
Non.
Des grosses bêtises.
On dirait carrément des conneries, quoi.
Oui, des grosses conneries.
Voilà.
Ouais.
Il est en train de virer.
Parce que c'est pas, elle a tout mangé, le chocolat.
Non, il est en train de virer vers la petite délinquance, ouais,
voilà,
quoi.
Voilà,
clairement. Et, on s'attendrait à ce que, puisqu'on glisse dans la fiction, on s'attendrait à ce qu'il y ait une intrigue, c'est-à-dire pas un climax, mais...
Oui, parce que jusque-là, c'est un peu comme... Je pense qu'il y a eu récemment une investigation sur le lac de l'Odeur.
Oui,
avec l'évaporation des subsides.
Non, mais attendez, jusque-là...
un lieu de villégiature,
voilà. Cela dit,
de premier plan...
Alors, on peut soit imaginer une enquête, effectivement, écologique, avec moi, soit, alors on se dit, on est devant un point de départ d'un film des Frères Dardenne, puisque...
Mais
dans un film des Frères Dardenne, il y a une intrigue, encore le dans dernier, Tori et Lokita, il y a une intrigue, il y a un enjeu ici. Quelque part, c'est une succession de scénettes, d'instantanées, avec le garçon qui pique un vélo, la fille qui est embauchée pour travailler comme femme de ménage, et on se dit « and so what ?». C'est-à-dire que si c'est présenté comme un long-métrage de fiction, il faut peut-être à un moment glisser dans la fiction,
oui,
et effectivement, et que l'intrigue donne de la chair à ces personnages. Or ici, on est dans une sorte de cinéma réaliste, mais reste... En gros, on est devant une tranche de misérabilisme wallon de 80 minutes, et il n'y a pas un éclair de poésie ou de mise en scène pour donner à tout cela une envergure, et une véritable envergure cinématographique. Alors, des films sur l'enfance ou la jeunesse défavorisée, je peux vous en citer plein, mon cher Rudy. Il y a eu L'enfance nue de Maurice Pialat, il y a eu Caisse de Ken Loach, un des premiers longs-métrages, mais qui sont effectivement, où il y a une dimension, entre guillemets,
c'est écrit,
misérabiliste.
Hein. J'ai ici, fiction, c'est un espace souvent imaginaire, moins réaliste, mais qui sert surtout de cadre pour le récit d'une histoire.
Voilà. Et qu'il y ait une dimension, quelque part, révélatrice de ces personnages. Or, ici, on nous laisse en plan avec une succession de photographies, et on a très rapidement compris de quoi il retourne. Alors, et pourquoi le Grand Prix en Namur ? Parce que je suppose que une frange du jury est particulièrement touchée,
sensible
par ce cinéma réaliste avec des acteurs plus vrais que nature. Oui, mais une fois encore, si c'est pas transcendé, soit par un vrai regard de cinéaste, soit par des trouvailles de scénario, soit il faut qu'on décolle du sol. Et là, on est en permanence avec ces deux personnages dans la glèbe. On reste dans la glèbe et on ne va pas en sortir. Et on dit, le film peut durer 80 minutes comme durer 3 heures dans ces cas-là. On peut citer aussi dans les films réalistes, on peut citer La vie de Jésus de Bruno Dumont, qui était aussi dur et sombre, mais où il y avait une échappée vers quelque chose. Ici, il n'y a pas d'échappée, et pour moi, il n'y a pas un regard véritable qui rend ça... Alors, je suis peut-être passé complètement à côté du film, vu les prix qu'il a pu recueillir. Il était à la semaine de la critique à Cannes, mais très honnêtement, je le trouve insatisfaisant. Je ne dis pas que la réalisatrice n'a pas du talent, mais je pense que la réalisatrice, si elle veut vraiment faire le saut dans la fiction, doit alors travailler avec un scénariste, doit travailler en collaboration pour vraiment passer à autre chose que ce qu'elle a fait dans Petit Samedi. Donc je suis pas du tout, vous l'aurez compris, pas du tout client de ce il pleut dans la maison. Mais
pourtant le lac de l'odeur, vous êtes passé à côté en allant à Couvain il y a quelques semaines.
Oui, et ça a son charme, et en plus c'est filmé pendant un été caniculaire, donc on pourrait dire que l'ambiance ensoleillée pourrait donner une dimension un peu... ouvrir un peu les fenêtres de ce film, mais voilà. Donc, et c'est joué par Mackenzie et Purdy Lombé. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que de toute façon, quand un Wallon veut sortir une injure, telle la compagne de Georges Louis dit espèce de flamand.
Ah oui, oui, ça c'est dans le film.
Ça c'est dans le film, oui. Et comme quoi, sociologiquement, c'est intéressant. Flamand, va. Voilà. Et voilà, c'est QFD. C'est QFD. Bien. Ça s'appelle Il pleut dans la maison. Et c'est de Paloma Sermontagne.
Est-ce qu'ils boivent des chimées?
Ils n'ont pas assez d'argent. Hein. Ouais. Je vous ai dit, c'est 80 minutes de misérabilisme pur jus, pur
sucre. Ça aurait pu être un placement.
Un produit. Ouais. Non, il n'y a pas de placement. Parce qu'il n'y a pas de produit. Donc, voilà.
Wow. Yeah. Pourtant, c'était bien à Couvain. On a passé une super soirée. Ah, voilà. Ouais. Donc, rien à voir.
Rien à voir.
Bien. Je ne sais pas par quoi terminer.
Là, je vous ai un peu donné un coup de latte dans les tibias. Hein.
Ouais. On va terminer par une note joyeuse et positive. Non. Je sais que vous aimez particulièrement ce projet musical un peu particulier qui est le post-modern jukebox.
Ah ouais. Oui. Leurs clips sont très amusants parce que c'est toujours des clips filmés en plan séquence d'un petit orchestre de jazz, mais jazz années 30 quoi, clairement. Ouais, 1930.
Qui reprennent des standards et ils reprennent de temps en temps des chansons avec ce grand Benet qui est en clown blanc. Oui. Oh.
Ils ont des participations comme ça, des guests, mais ils reprennent des morceaux. Ça peut aller de Depeche Mode à U2, en passant par des morceaux de folk plus anciens.
Oui, ça
va dans toutes les directions.
D'ailleurs, vous allez l'annoncer après que j'ai énuméré leur date en Belgique. En fait, ils fêtent leurs 10 ans, ce projet qui était parti, à mon avis, comme un one shot. Et ça fait 10 ans que ça dure. Ils sont le 18 mai, donc très très bientôt, à la Madeleine à Bruxelles, mais c'est complet. Donc ils reviennent à Serein.
Oh, vous ne pouvez pas dire un petit mot pour moi, non? Pour mettre sur la guest list pour le 18 mai.
C'est complet, mais...
De toute façon, on est en COD le 18 mai, non?
Non.
Ah non, pas le 18 mai.
En mai, non.
Non, non. Je confonds. Non.
Le 23 mai.
Stavelot. Merci Laurent.
Et ils reviendront en octobre à l'OM à Serein.
Ah.
Voilà. Et donc vous avez choisi le titre que je vous ai annoncé.
50 Ways to Leave Your Lover. Oui. Donc le classique de Paul Simon. Pas la reprise par notre ami Michel Delpech, l'original, et avec une chanteuse de jazz qui s'y colle, dont je ne connais pas le nom, mais c'est fort rafraîchissant, c'est amusant comme tout, c'est sans prétention.
Continuez, vous dites, on se retrouve demain. Allez-y.
Sur cette note joyeuse et festive, on remercie. Merci Laurent Carreau Lacroix, qui ce soir est ligné, donc Laurent Ligné Lacroix.
Très bien.
Et on remercie également Rudy Léonet pour ses sélections musicales, ses conseils de voyage
et sa bonne humeur et son
fact-checking et sa connaissance aiguë du glamping, enfin tout ça dans la même émission. Et à demain à la même heure avec d'autres découvertes musicales et d'autres films bien sûr. Ça vous va comme ça?
Allez, c'est parti,
à demain.
Voilà.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.